Bonsoir. La Lisadelle révèle que plus de 750 000 enfants sont menacés de mort par manque de nourriture dans les Swas-Kassaïens. Cette ONG de défense des droits de l'enfant et de la femme appelle le gouvernement congolais et la communauté internationale à intervenir urgemment dans cette partie du pays. Entre-temps, au Nord Kivu, plusieurs habitants du territoire de Lubero et enfouis des affrontements entre les FARDC et les groupes armés vivent depuis plusieurs mois dans des conditions humanitaires alarmantes. Quelle lecture faire de cette situation humanitaire? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. Godé Kayembe. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du conseil d'administration de la Lisadelle. Dr. Freddy Mbakata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADSSE en sigle. Cette ONG collabore avec le HCR. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Dr. Martial Kambumbu, ministre provincial en charge de la santé, des affaires sociales et actions humanitaires de la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous, Capi.
Merci bien. Retenez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère des Affaires humanitaires sont restés vains. Qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Lisadelle, une ONG de défense des droits de l'enfant et de la femme, lance un appel à une mobilisation pour sauver les enfants du Kasaï. Cet appel de la Lisadelle à l'endroit du gouvernement congolais et de la communauté internationale fait écho au rapport des Nations Unies faisant état de plusieurs centaines d'enfants en situation précaire dans cette partie du pays. On écoute Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Lisadelle, au micro de Daniel Tambinzoni.
Après les conflits Kamwene-Sapu gouvernement, à ce jour, il y a plus de 750 000 enfants qui sont en instance de mourir parce qu'ils n'ont pas à manger. 750 000 enfants, c'est tout un pays qui sont en instance de mourir. C'est pourquoi la Lisadelle fait un appel pressant en direction du chef de l'État pour qu'il instruise son gouvernement afin d'organiser le convoi humanitaire au Kasaï. Sinon, tous les enfants vont mourir. Il y a entre les enfants de 0 à 5 ans, plus de 350 000 enfants. Ça, c'est identifié par UNICEF, qui ont des kwashiorkor parce qu'ils n'ont pas mangé. Comme vous le savez, le Kasaï, c'est une province enclavée. Il vit de train. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas l'activité des trains, il y a une crise indescriptible au Kasaï. Si quelque chose n'est pas fait, c'est la mort. Nous demandons en même temps à la communauté internationale de libérer tous les fonds que les humanitaires ont demandés afin que l'UNICEF et les autres agences qui sont concernées, comme l'UNFI, puissent développer le programme d'aide humanitaire pour que la population s'y retrouve. Sinon, cette population va disparaître.
Au Nord Kivu, entre-temps, cela fait pratiquement plus de 3 mois que les habitants de plusieurs localités du sud du territoire de Lubero vivent dans des familles d'accueil à Maseraka et certains passent même la nuit à la Belle Étoile. Ces personnes fuient les affrontements entre les FARDC et les groupes armés qui écument la région. Cela se passe notamment dans les localités de Kipese, Kitaki et Katambi. On écoute Maître Olivier Kinzandou, coordonnateur territorial de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, Lubero, qui parle d'une situation humanitaire alarmante au téléphone de Sekombi Katondolo.
La situation humanitaire dans le territoire de Lubero, elle est totalement pénible, surtout pour la population de Kipese. Dans leur lieu de cachette, ils y sont sans assistance alimentaire, depuis plus de 3 mois de sécurité. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas accès aux soins de santé. Alors que pour les enfants en âge scolaire, ils sont dépourvus des enseignements. C'est vraiment pénible pour les déplacés en territoire du Lubero. C'est pourquoi la CRDH s'inquiète de ces conditions non vitales que traverse la population d'équipe de qui est à des bandages. Si aucune assistance alimentaire n'est faite, il y a risque d'enregistrer des pertes à vie humaine. C'est pourquoi nous, activistes de droits humains, nous appelons aux personnes de bonne volonté, aux humanitaires et aussi au gouvernement congolais de venir en aide à ces déplacés qui vivent très péniblement.
Joseph Godé Kayembe, vous êtes président du conseil d'administration de la Lisadelle. Qu'est-ce qui motive ce cri d'alarme que vous lancez?
La Ligue des Adèles, c'est une organisation des défenseurs de l'homme, spécialisée dans la protection des droits des enfants et des femmes. L'État congolais nous a donné la mission de faire le plaidoyer, nous a donné l'autorisation de faire le plaidoyer pour les enfants, d'accompagner les enfants qui sont victimes des violences et surtout de prendre des dispositions pour que les conventions ratifiées par la République du Congo puissent être mises en œuvre par notre pays. Et nous avons constaté, en lisant des rapports des différents partenaires, nous avons constaté que dans le Kasaï, dans l'espace Kasaï, il y a beaucoup d'enfants, et d'après le rapport, beaucoup d'enfants qui sont en instance de mourir. Ça, nous ne devions pas rester indifférents, parce que nous constatons que la plupart des humanitaires qui doivent parler ne le font pas. Et s'ils le font, ils le font timidement. Et surtout quand il s'agit du problème des enfants, ça ne peut pas rester les gens indifférents. Et nous avons été obligés, par notre mission, de pouvoir parler de cette question pour que ce soit la communauté internationale, que ce soit les autorités de cette république, puissent prendre conscience qu'il y a une génération qui va disparaître si on ne prend pas des dispositions utiles pour protéger et sauver les enfants.
Alors, dans le compte-rendu de l'actualité des Nations Unies en RDC, au cours de la semaine du 11 au 18 octobre 2017, l'UNICEF dit ceci: en réponse à la situation au Kasaï, avec plus de 1,4 million de déplacés, dont la moitié sont des enfants, et afin d'assurer une réponse rapide aux besoins de ces populations qui ont tout perdu dans leur fuite, dans la brousse pendant de longs mois, l'UNICEF a mis en place dans la région du Kasaï son programme de réponse rapide au mouvement de population RRMP, à l'instar de ce que l'organisation fait depuis des années dans l'est du pays. Godé Kayembe, voulez-vous dire que ces actions ne portent pas encore leurs fruits?
L'UNICEF, en principe, n'a pas mission de donner la nourriture à la population. Cette mission est dévolue au PAM, d'après la répartition de rôles et fonctions. C'est le PAM qui est censé apporter la nourriture à la population. Et depuis que la crise a eu lieu, à ces jours, je n'ai pas eu l'information que le PAM a eu suffisamment de ce qu'il doit avoir pour pouvoir participer ou sinon contribuer à la crise qui se passe dans le Kasaï. Et en même temps, je vous informe que les activités que font l'UNICEF actuellement sont les activités de développement. Je n'ai pas vu les activités en termes de nourriture qui doit porter. D'abord, ce n'est pas son rôle, qui doit porter la population qui est en détresse. Donc, l'effort que nous faisons, c'est de pouvoir demander aux Nations Unies, au gouvernement, de mettre le moyen nécessaire. Parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui est censé sauver la population et non pas les Nations Unies. Et l'État, si l'État n'a pas la capacité de le faire, il devait en principe faire appel aux Nations Unies pour obtenir cet appui rapide. Et d'ailleurs, je vous informe que depuis que l'UNICEF a initié cette action, jusqu'à ces jours, il n'y a pas d'appui massif comme ça s'est fait partout ailleurs. Partout ailleurs, quand il y a une crise humanitaire, automatiquement, tu vois, la mobilisation internationale. Pour le Congo, et surtout particulièrement le Kasaï, il n'y a pas eu cette mobilisation-là. C'est pourquoi j'ai dit que l'UNICEF, ce qu'il fait actuellement, c'est la planification, mais ils n'ont pas encore obtenu le moyen nécessaire pour intervenir dans la province au regard du niveau de la crise.
Voulez-vous dire que la crise au Kasaï ou la crise du Kasaï est une crise oubliée?
Apparemment, elle est oubliée. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'engouement comme ça s'est fait partout ailleurs.
Alors, le gouvernement congolais a un ministère des Affaires humanitaires. À votre connaissance, qu'est-ce qu'il a fait, ce ministère?
À ce que je sache, le ministère n'a rien fait à ces jours. Il y a eu seulement le bailleur de fonds qui ont planifié pour intervenir, mais le moyen tarde à venir.
Alors, le compte-rendu de l'actualité des Nations Unies en RDC, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, indique que la RDC connaît toujours une hausse des chiffres de déplacés, selon le rapport de OCHA sur le mouvement de la population au troisième trimestre 2017. Au 30 septembre 2017, le rapport fait état d'un chiffre variant entre 3,8 et 4 millions de déplacés. Godé Kayembe, on a des problèmes humanitaires dans le Tanganyika, dans la bande est du pays, au centre avec le Kasaï. Mais pourquoi vous ne semblez vous intéresser au Kasaï, et pourtant ailleurs il y a aussi des enfants?
Au Kassai, je m'intéresse parce que même les Nations Unies ont déclaré que la crise qui traverse le Kassai, c'est la crise la plus importante. Et dans leur processus de déclenchement de l'aide humanitaire, ils ont classé la crise au Kassai au niveau 4, sur le niveau le plus élevé de la crise humanitaire. Donc, le Kassai, si la population ne le sait pas, le Kassai traverse la crise la plus importante que l'on peut définir comme, ça c'est comme la crise qu'on a connue en Syrie, et dans d'autres pays il y a des guerres. Donc, les Nations Unies ont déclaré que la crise du Kassai, c'est une crise qui a été le niveau le plus élevé.
Ça fait près d'une année que la crise du Kassai a commencé et donc il y a quand même beaucoup de missions humanitaires qui sont descendues sur place, Godé Kayemi.
Je répète que toutes ces missions qui sont descendues en province ne sont qu'au niveau de la planification. Jusqu'à ces jours, il n'y a pas eu de fonds pour apporter l'appui aux populations vulnérables.
Alors, le même rapport dont je parle, le compte-rendu de l'actualité des Nations Unies en RDC, indique que le troisième trimestre 2017 a également enregistré un grand nombre de personnes retournées, estimées à quelque 213 000, dont une majorité dans la province de Tanganyika, avec près de 90 000 personnes, représentant 42% des retournées à travers la RDC dans la région du Kassai. Selon les autorités, la sécurité commence à revenir et est-ce qu'on ne compte pas encore des retournées pour que les populations puissent se prendre en charge?
Je crois que la situation au Kassai, elle est dramatique. Elle est dramatique par le fait que les gens qui ont tué la population dans leur maison ne sont pas des étrangers, ce sont des militaires congolais qui ont tué les gens dans leur maison. Et ça, ça a provoqué des psychoses.
Mais il y a aussi des miliciens qui ont
commis des exactions. Les miliciens s'attaquaient aux militaires, ils ne s'attaquaient pas aux civils. Mais lorsque l'armée est descendue dans la ville, ils ont allé maison par maison tuer les gens. Et ça, ça ne s'est jamais vécu. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, les gens sont traumatisés. Ceux qui sont dans la forêt ne peuvent jamais revenir tant qu'ils n'ont pas l'assurance. Donc la situation est très grave. Donc si vous pensez, vous croyez que c'est une situation facile qu'on peut gérer, il ne faut pas se faire de manière automatique. Considérez que la situation est grave au Kassai. Et la population qui pensait être protégée par l'armée, elle les a tués. Et les gens ont quitté la ville, ils sont dispersés dans la ville. C'est dans le village, on fuit. Et aujourd'hui, demander à cette population de revenir, comme ça, c'est pas facile.
C'est encore trop tôt.
C'est trop tôt, oui.
Voilà. Docteur Martial Kambumbu, vous êtes ministre provincial en charge de la santé, des affaires sociales et actions humanitaires en province du Nord Kivu. Selon le compte-rendu de l'actualité des Nations Unies en RDC de cette semaine, il est indiqué que la province du Nord Kivu abrite le plus grand nombre des déplacés, avec près de 1 million de personnes, soit environ 26% du chiffre global. Je présume que la majorité sont aussi des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'au niveau du gouvernement provincial, vous faites pour gérer cette situation? Docteur Kambumbu, visiblement, nous avons quelques soucis avec la ligne de Docteur Martial Kambumbu. Pendant que la réalisation tente de le retrouver, Docteur Freddy Mbakata, vous êtes directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Votre ONG collabore avec le HCR. Comment vous analysez cette sonnette d'alarme tirée par la Lisadel?
Je confirme très sincèrement les dires de mon collaborateur ici à côté, mon collègue, mon co-débatteur,
Joseph
Godé Kayembe, dans ce sens que les enfants sont vraiment en danger. Et moi, je vais vous donner des faits scientifiques. Vous devez savoir d'abord que la crise du Kassai a des impacts négatifs, non pas seulement dans l'espace Kassai, mais dans des provinces voisines. Où dans leur déplacement, plusieurs personnes se sont rendues. Je parle par exemple de la province du Kwilu, de la province du Kwango, de la province de Tanganyika,
Lualaba.
Voilà. Donc, même dans ces provinces-là. Et nous, au niveau de notre ONG, avec les fonds que nous avons eu avec la ACR, nous nous sommes retrouvés dans Achikapa, dans la province du Kasaï. Nous nous sommes retrouvés à Kananga, dans la province du Kasaï central. Nous nous sommes retrouvés dans la province du Kwilu, notamment à Kikwit, à Idiofa, à Gungu, et dans la province du Kwango, à Mukoso. Nous y sommes allés pour générer les listes de ces déplacés internes et connaître aussi leurs besoins pour les communiquer au niveau des humanitaires. Et profitant de cette occasion, nous avons mené une enquête nutritionnelle pendant la période allant du 5 au 25 août 2017. Cette enquête a ciblé les enfants âgés de 6 mois à 59 mois, c'est-à-dire les enfants en dessous de 5 ans. Elle a ciblé aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et le résultat de ces enquêtes sont très alarmant. Nous avons trouvé, par exemple, à Kikwit, pour la malnutrition aiguë globale, un taux de 32,5%. Et pour la malnutrition aiguë sévère, le taux est de 12%. Pour la malnutrition aiguë modérée, le taux est de 20%. Ce taux dépasse le seuil de l'urgence. Le seuil de l'urgence qui est pour la malnutrition aiguë globale varie entre 10 et 15%. Et là, à Kikwit, nous sommes à 32%. Pour la malnutrition aiguë sévère, le seuil de l'urgence est de 2 à 5% et nous nous retrouvons à 12%. Quand je parle de seuil de l'urgence, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, dès que vous dépassez ce taux-là, vous devez lancer l'alerte et on doit intervenir parce que les vies humaines sont en danger. Et j'accepte ce que mon collègue a dit, que les enfants sont en danger. Et nous avons produit un rapport qu'on a remis à OCHA, à l'UNICEF, au PAM, à la FAO, ainsi aux classeurs de nutrition, aux responsables politico-administratifs des provinces concernées, à savoir de la province du Kwilu et de la province du Kwango. Nous attirons l'attention. Les enfants sont en train de mourir. La crise perdure depuis une année. Il n'y a aucune intervention d'urgence de grande envergure qui est menée jusque-là. Je sais que l'UNICEF essaie de faire quelque chose, mais depuis quand l'UNICEF intervient? Il y a à peine un mois que l'UNICEF essaie de faire quelque chose, alors que ces enfants sont en déplacement, sont là depuis plus d'une année.
Mais, docteur, ces enfants sont tout d'abord congolais. Que fait le gouvernement congolais?
Bon, nous étions ici, c'est la deuxième fois que vous m'invitez sur votre plateau. Moi, je vous ai dit, dans un premier temps, quand il y avait de la guerre, les milices tuaient, il fallait, pour le gouvernement, la tâche primordiale était d'abord de sécuriser la population et de ramener la paix. Je pense que sur ce plan-là, tant que faire se peut, le gouvernement y est parvenu. Mais tout de suite après, quand la paix est revenue, quand on pouvait entrer dans l'espace Kasaï, quand on pouvait aller dans des provinces avoisinantes qui sont aussi impactées par cette crise de Kasaï, il fallait que des actions humanitaires puissent suivre. Mais à ce niveau-là, on traîne les pieds, ce sont des études, ce sont ceci et cela. Et quand vous parlez vous-même avec les déplacés internes, mais c'est le ras-le-bol, ils sont fatigués. Ce sont des enquêtes qu'on mène pour savoir ils sont à combien, pour savoir quels sont leurs besoins, c'est toujours cela.
Pendant qu'ils n'ont pas à manger, ils dorment dehors.
Exactement. Et certaines interventions qui arrivent maintenant visent la protection. Vous allez faire la protection de ces personnes qui, d'abord, vous les protégez physiquement, mais il y a un grand danger qui les guette, c'est la famine. Ils sont en train de mourir. Donc voilà un peu
Donc la situation est désastreuse, docteur Makata.
Exactement. Nous avons des chiffres scientifiques. Nous ne parlons pas en l'air. C'est une enquête nutritionnelle qui a été menée par la méthode SMART rapide et dont le résultat est disponible auprès de tout le monde. Il faudra qu'on s'y penche. Voilà.
Merci, docteur. Je reviens à vous tout à l'heure. La réalisation me signale que docteur Martial Kambombo est en ligne. Docteur, vous nous suivez?
Je vous suis très bien, Radio Capi.
Merci. Avant qu'on que votre ligne ne se coupe, je disais que selon le compte-rendu de l'actualité des Nations Unies en RDC au cours de la semaine du 11 au 18 octobre 2017, rendu public aujourd'hui, la province du Nord-Kivu abrite le plus grand nombre des déplacés avec près d'un million de personnes, soit environ 26% du chiffre global. Monsieur le ministre, au niveau provincial, comment vous vous y prenez pour gérer cette situation humanitaire?
Merci beaucoup Radio Okapi pour la question. Et je voulais d'abord rappeler deux choses. Et c'est d'abord le cadre national de concertation humanitaire qui est sous la présidence du Premier ministre pour l'efficacité des interventions humanitaires dans notre pays. Et cela, c'est pour faciliter les recherches et solutions aux difficultés que peuvent rencontrer et les acteurs humanitaires dans les relations quotidiennes avec les services étatiques. Ça, c'est très, très important pour toute action humanitaire ici dans notre pays. Et bien, je voulais rappeler aussi le groupe technique de travail qui soutient le cadre national de concertation humanitaire et tout cela dans la réalisation de ces objectifs en rapport d'abord avec la protection des civils et accès aux populations vulnérables en cas de crise. Ensuite, c'est la préparation et de la réponse aux crises et la facilitation même de la réponse et le suivi et évaluation des réponses, de la qualité des réponses. Tout ça, c'est sous la direction du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale, dont ses membres et Ocha qui assure la deuxième vice-présidence. Pour ce qui est du Nord Kivu, nous voulons d'abord rappeler l'historique même de crise, la crise humanitaire du Nord Kivu. Nous allons parler un peu des causes et des effets de cette crise. Et vous êtes sans ignorer que c'est depuis plus de 20 ans que notre province connaît effectivement une crise humanitaire qui est devenu même plus complexe et prolongé avec le temps. Et c'est d'abord, je peux vous citer la sécurité, et ces effets de l'insécurité qui ont causé des dégâts collatéraux humains et matériels, avec une vulnérabilité extrême de certains de nos compatriotes, avec même des impacts négatifs pour ce qui est des mouvements des populations. Il faudrait noter que l'Est de notre pays a des causes historiques de la crise aussi, comme les violences armées qui sont liées aux différents groupes armés qui sont actifs. Ces groupes armés sont tant nationaux qu'étrangers, vous le savez bien. Et c'est notamment aussi l'effet de 1994 avec l'entrée des réfugiés rwandais qui font maintenant l'objet d'FDLR. Les troupes armées et avec la propagation même de la criminalité dans certaines localités de notre province et qui n'ont pas même épargné les acteurs humanitaires. Vous savez que même les acteurs humanitaires ont fait l'objet même des actions de ces criminels.
Docteur Martial Kambombo,
directement la question.
Je vous en prie.
Nous savons qu'il y a des efforts du gouvernement provincial qui sont remarquables avec l'accompagnement des partenaires, et dont la coordination de OCHA et la MONUSCO a fait d'approfondir d'abord les analyses situationnelles pour rendre plus efficaces les actions et pour assurer une meilleure transition, puisque nous savons que nous devons passer des actions humanitaires au développement. C'est actuellement avec les résultats de Sindai et des autres actions au niveau international, il n'est pas possible que la province du Nord Kivu reste éternellement sous perfusion des actions humanitaires.
Docteur Kambombo.
Nous savons qu'avec la sécurisation de la province, nous devons passer des actions humanitaire aux actions de développement.
Docteur Kambombo,
ce que nous faisons, et je vous en prie.
Oui, concrètement, vous parlez des efforts du gouvernement provincial. 1 million de déplacés, c'est la population des populations de certains pays hein, qui nous entourent. Ce n'est pas facile à gérer. Concrètement, qu'est fait le gouvernement provincial?
Pour ce qui est du gouvernement provincial, je veux d'abord rappeler le cadre des consultations d'action humanitaire. Et pour ce qui est de nos actions, jusqu'à présent, ce que nous faisons, et nous assurons d'abord le lead des actions humanitaires. Nous sommes au premier plan vraiment à ce qui concerne les déplacements des populations et les différentes catastrophes qui nous arrivent à province. Et récemment, c'est le cas, je peux citer le cas de Diambwe et le cas de Kipefe et même des cas des autres contrées. Nous assurons, nous maintenons quand même une action de donner une première urgence dans le kit médical. Les témoignages qui ne sont pas suffisants. Comme vous le savez, la recrudescence des événements ne peut pas assurer à ce que nous puissions tenir le coup selon les moyens que nous avons. Mais nous pouvons vous rassurer que nous sommes en train de nous préparer. Et nous préparons ce que nous allons appeler la résilience communautaire. Et nous venons de faire un atelier sur la préparation et la prévention au risque. Et nous venons aussi d'élaborer un plan de contingence multirisque.
Merci, docteur.
Avec le gouvernement provincial. Et nous avons aussi des défis pour accomplir tout ce que nous pouvons assurer à ces millions de personnes déplacées.
Merci, docteur Martial Kambombou. Je reviens à vous tout à l'heure. Joseph Gedekayembe, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Je suis Franklin Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province de Kivu. La Lisabelle évoque une situation réelle, mais je note que le budget de la RDC ne permet pas de couper cette charge. Non seulement la capacité de gestion est faible, mais aussi la gestion des faibles moyens pose problème. La solution la plus durable est l'établissement de la sécurité et renforcement du secteur agricole pour une autosuffisance alimentaire comme par le passé. Car dans plusieurs villages, les gens ont abandonné l'agriculture faute de l'insécurité dans leur milieu et deviennent trop parasités à la suite des aides humanitaires. Il faut retourner ce peuple dans leur milieu et leur rassurer une sécurité.
Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément sonore. Joseph Gedekayembe, qu'est-ce que vous répondez à Franklin? Il parle de problèmes de budget au niveau du gouvernement congolais, un budget qui est modique.
Peut-être il ne sait pas ce qu'il raconte. Ce qui est vrai, c'est que lorsque un pays est en difficulté de venir en aide à sa population qui est en détresse, chaque État sérieux doit pouvoir prendre langue avec les Nations Unies. Aller aux Nations Unies, demander les appuis, et ça vient. Vous ne pouvez pas vous dire, parce que moi je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire. Et puis vous demandez à cette population qui est en train de mourir d'aller faire l'agriculture. Ça relève de la folie.
Mais cela n'est pas automatique, Joseph Gedekayembe. On a vu certaines crises dans ce monde qui sont pratiquement négligées, oubliées.
Je vous dis, quand il s'agit des crises humanitaires comme celle-ci déclarée par les Nations Unies, l'État a l'obligation de voir les Nations Unies et poser les problèmes de son peuple. Et automatiquement, on déclenche le mécanisme de contribution humanitaire. Ils ne peuvent pas, tout de suite là, déclarer que comme on n'a pas de moyens, on croise le bras, on laisse les enfants mourir, et tous, pendant qu'on est en train de cultiver. Même quand ils parlent de l'agriculture. Et cette agriculture, on va le faire comment? Les gens qui sont dans des forêts, les gens qui vivent dans des conditions de détresse, ils vont le faire comment? Avec quels moyens? Donc ces messieurs parlent des choses comme ils tombent du ciel. On ne peut pas comprendre.
Alors, Joseph Gedekayembe, vous avez suivi le docteur Mbakata qui a pu donner quelque chose de concret. C'est assez rare dans les différents discours que nous suivons jusque-là. Visiblement, les réponses restent encore théoriques. On est dans des ateliers, on est dans des pourparlers. Comment vous comprenez cela?
Ça démontre le niveau d'irresponsabilité.
C'est trop fort.
Je le répète, je ne le retire pas. Le niveau d'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Ils ont l'obligation, quand ils ont le pouvoir, de s'occuper de leurs compatriotes, de leur sécurité et de leur protection. Quand les gens sont en détresse, votre peuple en détresse, vous êtes à la planification et vous dites que nous faisons le leader des choses que vous n'avez pas produites. Vous ne faites aucun effort
pour demander les appuis, même de pays africains qui peuvent vous aider, aider cette population, quand vous n'avez pas de moyens. Et vous continuez à regarder les gens en train de mourir. Et vous vous dites responsable. Et ça, je regrette.
Peut-on aussi dire, Joseph Godé-Kayembe, que c'est pratiquement l'absence d'une politique humanitaire nationale?
Je crois que même si on n'a pas la politique humanitaire nationale, mais moi, le bon sens exigerait que les autorités s'y penchent. Quand les gens sont en détresse, quand même on n'a pas la politique humanitaire, le bon sens exigerait et la bonne volonté de la part de ceux qui dirigent le peuple et savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver surtout les enfants qui sont en détresse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça, on doit trouver la solution. On ne peut pas attendre, continuer à planifier. Ça n'a aucun sens.
Docteur Freddy Mbakata, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Docteur Pasikena de Kananga au Kasaï central. Cette déclaration de la Ligadel est une interpellation non seulement pour le gouvernement congolais, mais aussi pour la communauté internationale. Nous devons rappeler les promesses du chef de l'État lors du forum sur la paix, remettant l'arrivée des humanitaires pour soutenir le peuple kasaïen qui ont vécu des moments très difficiles de leur vie pendant les affrontements de la milice Kamuyansapu. Vite, le peuple kasaïen qui avait espéré quelque chose à travers cette promesse du chef de l'État s'est vu obligé de l'oublier car le peu d'organismes humanitaires qui arrivent, non seulement ils importent le personnel, mais ils ont aussi renversé la pyramide. C'est-à-dire, cette aide humanitaire reste dans des poches de gens et des autorités politiques, alors que la population qui devrait la recevoir ne perçoit que des miettes, ne pouvant pas résoudre le problème à la base. D'ailleurs, ces organismes se limitent qu'en ville, alors que c'est dans nos villages où il se pose vraiment des sérieux problèmes d'alimentation dus à la guerre de Kamuyansapu, causant des milliers de décès d'enfants malnutris et de femmes enceintes. Donc ceci est une preuve éloquente prouvant que l'aide humanitaire destinée au peuple kasaïen n'arrive plus à destination. Avec ceci, on estime croire que deux fois l'insécurité profite aux autorités politiques au lieu de profiter à la population qui devrait la recevoir normalement.
Docteur Freddy Mbakata.
Bien, merci pour la question. Je pense que c'est une interpellation qui vient de la part de notre compatriote qui parle depuis Kananga. Et ici, le problème qui se pose, c'est un problème national, c'est un problème très grave parce qu'il s'agit de vies humaines. Il n'est pas question ici de faire une guerre pour dire que le gouvernement ne fait pas, les humanitaires ne font pas ceci ou cela. Nous devons tous conjuguer nos efforts et apprendre surtout de nos crises passées. Nous devons capitaliser. Vous avez suivi le ministre provincial du Nord Kivu. Il dit que c'est depuis 20 ans que nous vivons simplement cette même crise de déplacements perpétuels de personnes en interne de notre pays, des déplacés internes. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Au niveau du gouvernement, je pense, ce que nous pouvons faire, c'est ceci. C'est de créer d'abord une banque humanitaire. Dans d'autres pays, ça existe. On crée une banque humanitaire au moment où la crise n'est pas là. Donc, on fait de la prévention. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette banque humanitaire? Il doit y avoir, par exemple, des tentes. Il doit y avoir, par exemple, de l'eau potable. Il doit y avoir des médicaments. Il doit y avoir des nourritures, surtout des conserves. Il doit y avoir de ce qu'on appelle en langage humanitaire NFI, articles non alimentaires. Par exemple, des nattes, des kitchen sets, des bidons, des savons et tout. De telle manière que dès qu'une crise éclate quelque part, dès que la sécurité commence à venir, les ministres qui représentent le gouvernement peuvent se déplacer avec un avion ou avec des camions. Ils prennent ces articles dans cette banque humanitaire. On va servir rapidement. Donc, on ne perd pas le temps. Et cette banque humanitaire peut être fournie par des dons au niveau national. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent dans ces pays, ou même ceux qui n'en ont pas beaucoup, qui sont disposés à apporter des dons. Les pays étrangers peuvent nous aider. Voilà. Je me rappelle, à l'époque d'un ancien ministre, où j'étais conseiller principal du Premier ministre Kinzenga, à la primature, nous étions en train de négocier avec le ministre humanitaire des Affaires humanitaires de l'époque de la création de cette banque humanitaire. Et il y a certains pays, notamment des pays arabes qui ont été contactés, qui étaient prêts à nous aider dans ce sens. Donc, au niveau du gouvernement...
Et ce projet-là est resté morné.
Bon, chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, il commence le tout à zéro comme s'il n'avait pas de prédécesseur. Et nous devons aussi nous mettre en marge de ce que font tous les pays du monde.
C'est-à-dire?
Vous savez, en 2015, il y a les pays des Nations Unies qui se sont réunis, qui ont fait le constat sur ce qu'on appelait avant 2015 les objectifs du millénaire pour le développement, et qui ont fait un constat qui a eu des résultats très lents ou sinon faibles. Et depuis lors, on parle des objectifs du développement durable.
ODD.
Oui, voilà. Et parmi les 17 objectifs, la nutrition vient en deuxième position. Et que vise la nutrition? Pour la nutrition, on vise que on doit éliminer la faim d'ici 2030, on doit assurer une sécurité alimentaire pour tous, on doit améliorer la nutrition, la qualité de la nourriture que les gens doivent avoir.
Merci.
On doit promouvoir l'agriculture et réduire la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Et on doit s'y préparer.
Merci.
Quant aux humanitaires, les humanitaires viennent pour nous aider. Les humanitaires ne peuvent pas prendre les devants de la scène pour faire ce que nous-mêmes nous devions faire.
Absolument pas. Vous avez raison, Dr. Freddy Mbakata. Dr. Martial Kambumbu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est Marie-Paul Awa depuis Kisangani. Cette situation est bien dommage et alarmante, due par le manque d'une politique interventionniste de ces pays face aux catastrophes et aux calamités que la population fait face. La RDC est dans un désarroi au point que le primaire même pose problème. Cet appel de cette organisation non gouvernementale exhibe bien les non-engagements et la non-prise en charge de la population congolaise par les gouvernants, et la non-tenue des tâches régaliennes de l'État congolais. Il faut donc mettre en place une politique interventionniste du pays pour venir en aide rapide dans ces zones en crise humanitaire. Il est curieux que la RDC n'ait réagi qu'après une révélation par une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale, ce qui est signe du dysfonctionnement total des services publics de l'État, censé de le faire car la léthargie de l'action gouvernementale face à une calamité occasionne bien des dommages incalculables.
Docteur Kambumbu, Marie-Paul Awa plaide pour une politique interventionniste un peu similaire à la mise en place d'une politique humanitaire nationale. Docteur Freddy Mbakata l'a relevé. Pourquoi, selon vous, la RDC n'a pas pu capitaliser des crises telles que celle du Nord Kivu où ça fait pratiquement 20 ans?
Oui, merci beaucoup, Radio Okapi. Vous savez que d'abord, nous devons comprendre que la crise humanitaire au niveau de notre pays est multidimensionnelle. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'à l'état de notre province, nous sommes en train de mettre au point les outils qui nous permettront d'être plus résilients à des prochains incidents. Et vous savez que la catastrophe, c'est quelque chose qui peut arriver soudainement, car qu'on ne puisse pas être préparé. On ne prépare jamais. Et on ne peut pas prévoir une catastrophe. Ça arrive soudainement quand on n'est pas préparé. C'est pour cela qu'on doit avoir un plan de contingence multirisque et on doit apprendre aussi des leçons passées, telles que je vous ai dit, en faisant une résilience communautaire. Et on permet à la population de résister aux chocs et des futures catastrophes. Et si cela n'a pas été, c'est peut-être les contraintes du national de notre pays. Et nous sommes très confiants qu'à l'état actuel, comme je vous ai dit qu'il y a un cadre national de concertation, il y aura des modifications et des améliorations par rapport aux outils humanitaires ici des espaces nationaux et internationaux.
Docteur Martial, au moment où il se pose des problèmes nutritionnels, alimentaires dans une partie de la RDC, il y a d'autres parties de ce pays où la nourriture est en train de pourrir. Comment vous l'expliquez et pourquoi, par exemple, on n'a pas vu les Congolais faire créer des chaînes de solidarité pour venir en aide à ces populations sinistrées?
Tel que je vous ai dit, nous avons beaucoup de problèmes d'action, d'abord d'accès humanitaire. Et l'accès peut être de différentes dimensions. Et d'abord, c'est l'inaccessibilité physique. Vous savez que notre pays fait face à beaucoup de problèmes d'accessibilité géographique et physique, tels que les routes et même les transmissions des alertes et beaucoup de choses. La nourriture peut être produite dans une contrée, mais qui a des difficultés d'être rapatrié ou de faire accès à d'autres communautés. C'est par exemple les routes et les fermes agricoles qui ne sont pas à bon état. Mais nous avons aussi les dimensions dues à la climatologie de notre pays. C'est une climatologie très variée et qui ne permet pas à ce que même les routes à terre bâtie puissent résister à un long terme. Et ce sont ces différents défis qui peuvent faire à ce qu'on ne puisse pas avoir des réserves agricoles ou des foyers agricoles pour qu'on puisse desservir notre contrée. Mais de ce qui est de notre province, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons déjà mis en place un forum aux solutions durables aux populations déplacées. C'est une réalité au Nord Kivu où nous ferons des greniers agricoles qui pouvaient nous faire des réserves pour faire face même à des crises alimentaires en cas de certaines catastrophes.
Docteur
nous
Martial.
Sommes en train de réfléchir avec nos partenaires.
Docteur Martial.
Pour que nous puissions mettre à place ces forums. Et vous en prie.
En guise de conclusion, parce que l'émission se termine, comment vous entrevoyez la suite de la situation humanitaire en RDC ? Brièvement, s'il vous plaît.
Oui, la suite de l'action humanitaire dans notre pays et surtout dans notre province, ce n'est pas de l'amélioration de l'état sécuritaire. Et ici, nous tenons à féliciter nos forces armées qui sont en train de faire un travail de titan pour essayer de stabiliser notre province. Et nous vous rassurons qu'il y a une lueur d'espoir, puisque nous savons que nous devons effectivement passer de l'humanitaire aux solutions durables. Et ce qui a dit l'atteinte des objectifs.
Merci.
Et de développement durable.
Merci, docteur Martial Kambumbu, Joseph Godé Kayembe. 4 millions de déplacés, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Ça fait beaucoup de défis à la fois sécuritaires, humanitaires, psychologiques, alimentaires. En guise de conclusion, est-ce que votre appel sera entendu?
Notre appel doit être entendu. Et je crois qu'à la suite de l'intervention de ce monsieur de Bukavu, je comprends tout de suite que c'est un monsieur qui ne comprend pas ce qu'il dit. La majorité des Congolais, ils parlent français, mais ils ne savent pas comment quel est le mécanisme qu'on met en place lorsque un pays est en crise. Nous sommes dans un monde qui se compénètre, la mondialisation. Nous sommes membres des Nations Unies. Même si même la Corée du Sud, la Corée du Nord qui a des problèmes à ce jour avec les Nations Unies peut recourir aux Merci. Nations Unies pour demander des appuis.
Merci. Docteur Fridi Mbakata, votre conclusion.
En guise de conclusion, je dirais que nous devons tous attirer une grande attention sur la malnutrition qui constitue un problème de la santé publique et du développement. Nous devons savoir que dans nos villages, près de 43% des enfants vivent dans une situation de malnutrition chronique. Et cet état de choses impacte sur le développement et sur la mortalité.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.